Bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 11h pile à la pendule de Radio Canu et comme tous les dimanches de 11 à 12 en direct, c'est l'émission Musique, etc. qui commence avec aujourd'hui comme invité le groupe Yem Kela, mais pour l'instant, le générique. Bonjour à tous, chers auditeurs. Comme je vous disais il y a quelques instants, c'est le début, comme chaque dimanche de 11 à 12 en direct, de Musique, etc. Une émission essentiellement consacrée à la scène émergente et alternative que vous pouvez également retrouver sur les blogs de Radio Canu à la rubrique Musique, etc. Aujourd'hui, dans les studios, trois invités, les trois membres du groupe Yem Kela, en la personne de Damien, Xavier et Ben. Yem Kela, bonjour, bienvenue à Radio Canu, bienvenue dans Musique, etc.
Salut.
Alors peut-être on va envoyer un morceau un petit peu rapidement pour ceux qui ont peut-être pas la chance encore de connaître votre musique, mais peut-être faire un petit tour de table, savoir vous présenter chacun, dire ce que vous faites dans le projet Yem Kela.
Donc moi c'est Damien, je suis guitariste chanteur du groupe.
Moi c'est Xavier, bassiste.
Et moi c'est Ben, batteur de Yem Kela.
Et on pourrait faire un petit historique de Yem Kela. Ça fait combien de temps que le groupe existe? Depuis comment vous êtes rencontrés tous les trois? Comment le projet est né?
Alors historiquement en fait, déjà Ben et moi on se connaît depuis les premières années de lycée. Et puis on a surtout joué ensemble 8-9 ans dans un groupe qui s'appelait Check This Out, groupe de rock un petit peu énervé, où, dans lequel on a pu faire pas mal d'expériences de scène, d'enregistrement. Et donc en fait quand le projet a pris fin, chaque musicien avait un petit peu envie de voir d'autres horizons musicaux. Et moi en fait pour le coup j'avais envie de m'essayer un petit peu au chant et donc j'avais des compos à la maison avec des textes. Et du coup j'ai proposé à Ben de jouer un petit peu ensemble en attendant de trouver respectivement un projet. Et puis c'est comme ça que ça s'est mis en place, les choses ont pris un petit peu forme et puis on a rapidement eu le besoin de trouver la troisième personne du groupe pour finaliser le projet quoi.
Le bassiste, ouais. On a commencé en fait guitare, chant, batterie et puis on a commencé il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans et puis Xavier nous a rejoint en fait dans la foulée.
Et Xavier, vous l'avez rencontré comment?
On se connaît depuis une dizaine d'années, voire plus. Et je jouais en fait dans le groupe d'un des anciens musiciens de Check This Out. Et donc le groupe s'est arrêté et le poste était vacant.
En fait ce qui est bien c'est quand tu fais de la musique, tu te fais rapidement plein de potes zikos. Donc nous c'est vrai qu'avec Ben on a pris notre petit carnet de connaissances bassiste. Et pour le coup il y en avait deux. Non et puis voilà donc c'est vrai que Xav venait de finir son projet donc c'était l'occasion et puis on s'entendait bien quoi. C'est vrai que le côté humain est super important quand tu montes un projet au-delà du niveau musical ou de la démarche en elle-même.
Parce que là, ça fait 5 ans, ça que vous dites, pour tenir...
J'ai envie de dire, le projet avec une réelle forme de groupe, avec une identité, un nom, des compos, ça fait pas tant que ça non plus, quoi. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans.
Ouais, 3 ans, 4 ans. À peu près.
Le nom Yem Kela, ça vient d'où?
Alors Yem Kela, c'est en fait c'est un titre d'un groupe qu'on aimait bien, un groupe suédois qui s'appelle Blindside. Je crois que l'album d'où provient le morceau s'appelle The Great Depression.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, quand on a cherché un nom de groupe, on a un petit peu épluché tous les titres des groupes qu'on aimait bien, et puis on s'est surtout focalisé sur quelque chose qui sonnait bien, qui nous plaisait.
Qui sonnait bien et qui voulait pas dire grand chose non plus, parce qu'on voulait pas qu'il y ait d'image vraiment. Qui allait coller au groupe ou donc du coup on est parti sur ce nom-là aussi parce que il véhiculait
Enfin, côté mystérieux.
Voilà, ouais, ça signifie rien de particulier, en fait, Yamkela.
Non, si je dis pas de bêtises, je crois que Yamkela, ça veut dire bienvenue en sud-africain ou quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment pas été choisi pour ce sens-là. Même malgré le petit côté accueillant que peut avoir le groupe.
Et avant que j'envoie un premier morceau, pour votre style musical, on parlera de quoi pour Yamkela?
Moi, je dirais plutôt alternatif rock. Hein.
Ouais, du rock.
C'est assez généraliste comme ça.
Un peu progressif peut-être aussi quand même. Non.
En fait, moi je dirais ouais, rock de trentenaire. En fait, le truc, c'est. On n'a pas vraiment de. On se fiche pas sur un style, ça permet justement de pouvoir faire aussi bien demain un morceau un peu plus pop qu'un morceau un petit peu plus rentre dedans. C'est pour ça que moi j'aime bien dire du rock au sens large, en fait.
Oui, et puis en fait on a aussi des structures de morceaux assez classiques, donc progressif, pas vraiment. On reste vraiment sur des choses assez standards. On essaye surtout de s'inspirer de ce qu'on aime et puis essayer de faire un mélange de tout ça et puis. De l'enrichir pour essayer de le mettre à notre sauce, quoi. Mais je pense pas qu'on révolutionne vraiment les genres musicaux et c'est pour ça qu'un terme générique comme alternative rock c'est plutôt pas mal.
Je vous propose qu'on écoute un premier morceau pour que les auditeurs découvrent votre musique. C'est le premier morceau du EP, c'est Yamkela dans musique, etc. sur Radio Canu. Kella dans Musique, etc. sur Radio Canu avec un morceau extrait de leur EP Blurring Effect. Je vais vous laisser dire le nom du morceau à cause de l'accent.
Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Flying Cage for Bird.
C'est le morceau qui ouvre en fait l'EP.
Ouais.
Peut-être dire un mot sur ce morceau, sur sa signification, sur sa naissance et pourquoi en fait vous l'avez choisi pour ouvrir cette EP 4 titres.
Alors, sa signification, de manière générale, en fait, les textes sont rarement très définis. Il y a un petit peu cette volonté de rester un petit peu flou. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'aime bien, d'ailleurs, quand j'écoute de la musique, c'est plus me laisser transporter par la musique que, on va dire, driver par ce que le chanteur, ce que l'auteur a pu écrire. D'ailleurs, c'est rigolo quelquefois parce que. Moi, je sais que quand j'aime bien un morceau, au bout d'un moment, je vais lire un petit peu ce que dit le texte. Et c'est souvent où t'es un peu surpris parce que ce que véhicule le texte n'est pas forcément ce que toi, tu imaginais en écoutant le morceau. Et donc voilà, pour en venir sur l'écriture, c'est vrai que j'aime bien, moi, qu'il y ait plusieurs lectures et finalement laisser une interprétation un petit peu subjective au texte, quoi.
Peut-être aussi pour ça que vous avez choisi l'anglais, non ?
Ouais, alors l'anglais, en fait, au départ du projet, quand on a commencé à jouer ensemble avec Ben, les textes, du coup, ce que j'avais composé à la maison, c'était tout en français. Et c'est vrai que nous, on sortait d'un projet où on avait fait 9 ans de musique sur un projet où c'était tout écrit en français. Et je sais pas si c'était une volonté un petit peu de se détacher de ça ou pas, mais c'est vrai que Ben m'a suggéré d'écrire les textes en anglais. C'était un petit peu flippant au début parce que c'est un exercice qui est un peu différent, surtout selon le niveau de chacun en anglais. Le mien n'est pas très non plus très élevé. Et au final, ben, c'est plutôt cool, quoi, et on est content de le faire comme ça, quoi.
Tout à fait. Puis moi, je rajouterais que l'anglais, ça correspond bien aussi au style qu'on fait, quoi, et ça apporte une certaine musicalité aussi au morceau.
Ouais, souvent les gens qui font du rock, qui viennent ici, me disent qu'en fait l'anglais c'est la langue du rock, quoi. C'est la seule langue qui sonne vraiment avec la musique rock, quoi.
Il y a de ça, effectivement.
Il y a de ça, et après c'est Damien, il me disait
Ça vous a pas empêché de travailler en français sur d'autres projets d'ailleurs, mais... Je t'ai coupé.
Ouais, en fait, par rapport à l'anglais, je voulais juste rajouter, enfin, c'est Damien qui en parlera le mieux, parce que c'est lui qui écrit les textes. Généralement, quand il va partir sur des... de l'écriture, de paroles, il part sur des mots et après il rattache ces mots entre eux, en fait. Mm-hmm. Parce que des mots vont mieux sonner que d'autres sur des fins de refrain ou choses comme ça.
Et, c'est ça, en fait, quand tu fais de la musique, je pense que c'est le cas pour la plupart des chanteurs. Quand tu travailles ta mélodie en répète, forcément t'as pas tout le temps ton texte qui est écrit à l'avance et tu pars sur ce qu'on appelle du yaourt, en fait. Donc du round 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 round, tu vois. Et du coup, finalement, ce yaourt, quelquefois, c'est un petit peu de par les sonorités, la source de ton début d'écriture, en fait. Je sais pas si c'est bien clair, mais ça donne des pistes, en fait. Ça peut donner des pistes d'écriture.
Et puis, pour en revenir à la composition du morceau, c'est peut-être un des premiers morceaux qui a été composé en répète, à trois, vraiment. Mm-hmm. Contrairement aux autres qui étaient déjà là, puisque Damien avait déjà travaillé sur...
Pas sur le EP, pas sur les titres, les quatre...
Non, mais le Flying Cage, c'est peut-être le premier morceau qui est né comme ça, à trois, quoi. Enfin...
C'est deux souvenirs, il me semble, parce que c'est vrai que c'est mine de rien, il y a quelques temps de ça qu'on l'a fait. Mais deux souvenirs, c'est un morceau, il me semble, qu'on a pas mal travaillé en répète. C'est-à-dire que c'était pas forcément une compo qui était arrivée figée avec du couplet comme ça, du refrain comme ça, un pont comme ça. Et c'est un morceau finalement qui a été pas mal retravaillé en répète, qui a pris des orientations un petit peu différentes. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu composes, c'est ce qui est sympa, c'est que des fois tu te retrouves à aller très très vite. T'arrives avec des idées, ça se met en place super rapidement, les arrangements sont immédiatement ceux que t'envisageais. Et de l'autre côté, ce qui peut se passer, bah, c'est que t'as un morceau qui met plusieurs mois à émerger. Et c'est plaisant aussi, parce qu'au final, quand t'arrives à ce que tu recherchais, bah, t'es content d'y avoir passé du temps.
Ouais, de façon générale, le processus créatif de Yem Kella, il n'y a pas de règles fixes.
Enfin, pas vraiment.
Il n'y a pas de morceaux qui naissent de la même manière.
Ouais, ouais, ouais.
Mais la plupart du temps, j'imagine que ça part d'un riff, non ?
Ça part d'un riff, hein, comme dans pas mal de...
C'est surtout Damien qui amène les riffs.
Disons que la démarche de partir d'un riff guitare, je pense que dans le rock, c'est souvent ça. C'est peu fréquent, j'imagine, que t'es un batteur qui dise là j'ai un truc, qu'est-ce que vous en pensez. Donc effectivement, ça part de riff, mais en fait ça peut être une simple idée, ça peut être quelquefois des riffs qui émergent comme ça en répète, et dans d'autres cas des choses, oui, plus travaillées. C'est vrai que il y a aussi le côté où j'arrive, je présente des choses. Alors maintenant que je suis guitariste chanteur, je présente également des idées mélodiques, enfin de chant dessus. Et puis après, voilà, on valide ou pas.
Après, c'est démocratique derrière, finalement.
Exactement.
Mmh. On aime, on n'aime pas. Alors, des fois, c'est un peu barbare pour Damien, parce que quand il arrive avec des trucs super travaillés et que ça parle un peu moins aux autres, c'est,
voilà, c'est plus compliqué. On s'entend là-dessus.
Mais ouais.
qui est là avec le morceau Blurring Effect, extrait de l'EP du même nom, Blurring Effect. Alors, dire un mot sur cette chanson, savoir sur son histoire, sa genèse musicale, sur son sens, et peut-être savoir pourquoi elle donne son nom à l'EP. Ouais. Vous me disiez hors antenne que vous ne la jouiez plus sur scène, celle-ci.
Non, c'est vrai que c'est un morceau un petit peu plus... qui est plus arrangé que les autres. C'est vrai que c'était assez plaisant d'ailleurs pendant l'enregistrement de pouvoir apporter sur ce morceau des arrangements. On y a mis des arrangements de clavier, de cordes, des arrangements vocaux, des guitares additionnelles. Et en revanche, bien que le morceau ait été composé à trois et qu'on arrive à y restituer l'essence en concert, c'est un morceau qu'on a un petit peu plus de mal, enfin, je pense. Je parle un peu pour moi, peut-être, je sais pas, mais un petit peu plus de mal à défendre sur scène. Disons que quand t'as aussi un set, quand tu joues une demi-heure, 40 minutes, et que tu as un set un peu plus énergique, et que tu as un morceau à positionner qui est un petit peu plus calme, t'es toujours pris un petit peu, c'est un peu délicat, t'es pris à te dire, faut pas que ça fasse retomber la dynamique du concert, donc.
Souvent, ouais. Il y a des groupes, certains groupes qui me disent, certains publics, ils aiment bien que quand ça bourrine, quoi. Dès qu'il y a une chanson dès qu'il y a une chanson calme, ils vont boire une bière, quoi.
Ouais, ça peut arriver, ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Puis t'as l'aspect aussi, comme je te disais tout à l'heure, comme il y a beaucoup d'arrangements sur ce morceau, tu le livres pas en concert comme tu le présentes sur support, par le biais du EP, quoi.
Et peut-être un mot sur, tu me disais qu'il n'y en avait pas toujours vraiment de précis, mais sur le sens du texte, de quoi ça parle ?
Blurring Effect, ça parle un petit peu du fait d'arriver à dépasser les échecs et finalement arriver à se trouver soi-même pour s'épanouir. C'est un peu fou, même dans l'explication que j'y donne. Mais voilà, avec ce côté aussi... Ouais, où t'as un besoin d'obscurité pour percevoir un petit peu la lumière. C'est ce que le texte traduit à certains endroits.
C'est beau ce que tu dis. Merci, Xav.
On pourrait faire peut-être un petit tour de table pour parler de vos références, de ce qui a nourri votre vie d'auditeur et votre vie de musicien, qui a nourri aussi la musique de Yemelka.
Yemkela,
je répète, c'est important quand même. Donc Yemkela, les trois membres, ce que vous avez beaucoup écouté, ce qui a nourri votre vie de musicien et puis votre vie d'auditeur de musique.
Mm-hmm. Je vais commencer. Moi, c'est vrai que le déclic, c'est au collège avec Nirvana, comme beaucoup de monde, je pense. Damien et Xavier, je crois que c'est à peu près pareil.
Ouais, exactement.
Et c'est vrai que c'est ça qui m'a un peu donné le virus, donné l'envie de comprendre comment on faisait ce genre de choses qui me paraissaient complètement étranges à écouter et qui me faisaient autant frissonner. Et du coup, moi je me suis mis un peu par hasard à la musique parce que j'avais des copains au collège, il y en avait un qui faisait de la guitare, l'autre qui chantait, et qui m'avait dit on pourrait monter un groupe. Donc, du coup, ça m'a pas trop laissé le choix, soit la basse, soit la batterie. Et puis je me suis dit, je vais essayer la batterie. Et puis du coup, le pied à l'étrier est venu comme ça, et avec toutes les influences qui vont avec, quoi. Et ça permet de rencontrer du monde et d'enrichir ses influences. Du coup, je suis aussi allé du côté de musique un peu plus métal, Metallica, Sepultura, enfin toute la scène, des années 90, ouais, Deftones. Quoi d'autre, Rage Against the Machine, il y en a tellement, j'en oublie, Korn, et puis, petit à petit on évolue quand même, et puis aujourd'hui on se nourrit aussi d'autres choses, peut-être même un peu plus calme.
Ouais, carrément.
Moi je dirais que j'écoute pas mal City on Color, c'est un truc qui me plaît pas mal. Et...
Ouais, des choses un petit peu plus indé finalement. Enfin, moi je sais que j'aime bien. Il y a un artiste canadien que j'aime beaucoup qui s'appelle Patrick Watson. C'est très différent de ce qu'on peut faire nous. Nous on reste dans un registre où, de manière générale, de toute façon on aime le rock, on aime plein de choses, mais on fait aussi ce qu'on sait faire.
Et Nirvana, t'as accroché sur Nevermind direct
Ouais, c'est ça, ouais. C'était la grosse période Nevermind. Ouais.
Peut-être quelque chose, Damien, à ajouter sur les choses plus anciennes que tu as pu écouter.
Eh ben non, moi c'est pas plus, enfin c'est pareil que Ben en fait. Moi j'ai vraiment eu envie de me mettre à la musique avec avec Nirvana, même un petit peu plus sur le tard que certaines personnes. Moi avant j'écoutais de la dance, des trucs caca.
Faut pas le dire ça.
Et puis ah ouais merde ça, putain, ça fait pas bien quoi. Ça fait pas bien.
Et, on a pas donné de nom.
Et effectivement, Nirvana c'est ce qui m'a donné envie de me mettre à, également à la guitare en fait, enfin à la musique.
Ben moi, mon père, il écoutait beaucoup de musique, les Clash, les Cure, Springsteen. Donc moi, quand j'étais gamin, en fait, indirectement, j'écoutais ça. Puis j'ai vraiment apprécié. Et ensuite, je me suis plus mis à la musique, ce qu'on appelle le grunge, avec des groupes comme Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, donc que j'écoute toujours régulièrement. Voilà, ce que je peux dire par rapport aux influences. Des groupes punk aussi, j'adore le punk. Tout ce qui est punk des 70s comme Sex Pistols, les Clash, je viens de le dire, les Stranglers. Puis après, la scène aussi californienne, avec NoFX, Pennywise, tous ces trucs-là. Quoi. Voilà.
Et la musique, tous les trois, vous l'avez appris comment? Autodidacte? Vous êtes passé par des écoles, ouais. Par le conservatoire?
Ouais, moi autodidacte en fait. Comme ça, sans cours. Moi, tout ce qui fonctionnait à l'époque, quand j'étais gamin ou ado, pas des cours, mais on va dire de l'encadrement, quand j'ai fait du sport ou des choses comme ça, j'ai vite lâché l'affaire. Donc là, du coup, c'est vrai que la musique, ça me permettait de faire ça à mon rythme. Et puis j'avais des potes qui faisaient de la guitare, donc les potes te montrent des plans. Après, toi, tu cherches aussi, tu brodes un petit peu ta sauce, quoi. Donc ça te permet d'aller à ton rythme. Moi, c'est ce qui me correspondait, à tout du moins.
Xavier, la basse
Moi, en fait, j'ai commencé la basse il y a une quinzaine d'années. Et en fait, à chaque fois que j'allais dans un concert, je bloquais sur le bassiste, sur le son de la basse. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer. J'ai appris comme ça. Et puis, en jouant sur les disques, et puis en essayant, en tout cas, de trouver les lignes. Et puis, voilà.
Ben, la batterie
Moi, du coup, j'ai pris des cours de batterie quand même au début. J'ai dû prendre 3-4 ans, je pense, de batterie, et de cours de batterie. Et puis, j'ai commencé à me lasser un peu du formalisme du cours, on va dire. Et puis, j'avais quand même quelques bases pour finalement, après, m'épanouir dans les différents projets musicaux que j'ai pu avoir à l'époque. Et puis, finalement, on évolue beaucoup... Et on s'enrichit beaucoup en fait en jouant avec différentes personnes et finalement c'est peut-être plus ce qui définit mon jeu de batterie à l'heure actuelle plus que ce que j'ai appris en cours.
Yemkela avec le morceau Vine and Divine, c'est ça. Toujours extrait de votre EP Blowing Effect. Dire un mot, évoquer ce morceau Vine and Divine.
Vine and Divine, bah c'est un morceau un petit peu plus, on va dire, c'est le morceau le plus ensoleillé, un peu californien 90 quand même.
C'est ça, ouais. 90.
Et voilà, et du coup, bah c'est un morceau qu'on, enfin le EP finalement date quand même, commence à dater un petit peu, et c'est pareil, c'est un morceau qui est plus, enfin qui était dans les derniers sets de concert, mais qu'on va pas tarder de virer.
Ouais, et c'est un des plus vieux morceaux aussi qu'on avait composé.
Ouais.
On faisait un peu le tour là comme ça et et du coup, bon, bah, il a quand même bien vécu. Et...
Finalement, les deux morceaux qui restent sur nos sets actuels de concert, c'est Goldfish. Donc,
on écoutera dans un instant.
Voilà.
Flying Cage.
Et Flying Cage.
Et puis Asylum aussi.
Et Asylum.
Asylum, ouais. Qu'on écoutera en fin d'émission.
Ouais. Mais qui n'est pas sur le EP, par contre.
Qui n'est pas sur le EP, ouais, effectivement.
Oui. La différence des.
Ouais, c'est sûr.
L'alchimie, Yemkela, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que en fait vous êtes content de faire de la musique ensemble, que vous entendez bien, que ça perdure.
Déjà, c'est le côté humain pour moi, parce que on s'entend bien, on est potes. C'est la manière dont on le fait, en fait, ça reste, c'est modeste, c'est à la cool. On répète une fois par semaine, on se prend pas la tête, on répète 2 heures et demie, temps de la mise en place. Et voilà, donc il y a une démarche qui tend à le faire sérieusement, mais du coup sans contrainte et à notre rythme, en fait. Je pense que c'est pour ça que le projet perdure.
Ouais, exactement. Puis on a quand même pas mal de choses en commun, donc effectivement, on partage ces instants musicaux, mais on en partage aussi quelques-uns à l'extérieur.
C'est ça.
Bon, on a tous nos petites vies de famille.
Ouais, on est tous papa, donc ouais. C'est vrai que ça c'est pareil aussi, c'est un truc qui fait que t'as moins de temps à consacrer à tes loisirs que ce que tu pouvais avoir avant, quoi. Et puis moins le besoin aussi de le faire.
Puis c'est vrai que les derniers morceaux, ils ont peut-être plus une identité singulière par rapport à ceux qui étaient déjà là, etc. Parce qu'on les travaille vraiment tous les trois, même si c'est Damien qui amène l'idée principale, on les travaille vraiment à trois, et c'est ce qui fait peu la force des morceaux, et ils sont de plus en plus aboutis, alors que parfois, dans un groupe, plus le temps passe, il y a peut-être plus de lassitude.
C'est ça.
Et c'est un peu le contraire là, qui se passe avec Yemkela, c'est que...
Disons qu'il y a beau, ça fait 4 ans, vous disiez tout à l'heure, 4 ans, 5 ans qu'on joue, t'es toujours en phase de développement, en fait. T'es toujours un petit peu, t'as toujours cette surprise sur le dernier morceau. Ah, genre, ah, putain, ça, c'est cool, on l'avait pas fait encore. Et c'est cette fraîcheur qui fait aussi que finalement tu te poses pas de questions sur le devenir du groupe, quoi, de la formation.
Et sur vos motivations, parce que comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens, c'est une question qui revient régulièrement, mais. Il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique, qui font, qui en écoutent, qui en sont fans, mais c'est pas tout le monde qui répète, qui fait des CD, qui va sur scène faire des concerts. Vous sauriez expliquer tous les trois, peut-être faire un tour de table à chacun, vos motivations pour faire de la musique, pour passer à l'acte, pour en créer et en jouer.
Moi, pour que la machine avance, il faut que t'aies mine de rien, que tu aies des points d'aboutissement, et ça passe par de la scène, ça passe par de l'enregistrement, pour pouvoir passer justement à autre chose. Tu vois, là, justement, on prépare notre prochain EP, en fait, donc on a des nouveaux morceaux.
Et ça sera pour quand, le prochain EP?
On envisage de faire ça d'ici fin d'année. Donc pour l'instant, on est dans une phase un petit peu de préparation, de travail. On commence un petit peu ça.
De peaufinage, réfléchir au financement, de comment on le fait. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué aussi, hein, maintenant.
Ouais, voilà.
On est dans un monde où les musiciens font quasiment tout. Hein. Et au niveau des financements, c'est pareil. Il faut arriver à.
Bah, c'est de l'auto. Enfin, c'est toi qui budgétises.
Il y a des groupes qui font des appels aux dons. Il y a un site pour ça, pour soutenir des projets musicaux. Parfois, ça marche assez bien.
Mm-hmm. C'est vrai que pour l'instant, on s'y est pas trop.
On s'y est pas trop intéressé.
On s'est posé des questions dernièrement, mais ouais, c'est vrai que. on s'est pas trop intéressé à ça. Mmh. Le truc, c'est que quand t'es un groupe, quand t'es un trio comme ça, c'est vrai que financer un EP... Alors, nous, on fonctionne, c'est pareil. On fonctionne avec des potes. Le EP en question, donc, qui passe Blurring Effect, là, pour lequel on a passé des morceaux, on l'a enregistré avec un pote à nous, Grégory Ross. Et c'est pareil, donc tout le développement du EP, le graphisme de la pochette, c'est un très bon pote à nous qui nous l'a fait. Le mastering, c'est pareil, c'était un pote à nous. Et si tu passes pas par là, le problème, c'est que ça te coûte trop cher pour pouvoir le faire aussi. Parce que des jours de studio, c'est onéreux. Pardon.
Cela dit, ça reste un plaisir le studio pour vous ou c'est vraiment...
Pour ma part, c'était une nouvelle expérience. Parce qu'avant, j'avais jamais fait de studio, donc avant cet EP. Et comme toute nouvelle expérience, il y a une espèce de... Comment dire ? On se demande si on va être à la hauteur. Et puis, ça m'a permis aussi de progresser dans la mise en place, parce qu'il faut quand même être bien concentré, etc. Mais au final, oui, c'est assez agréable.
Et puis
non, vas-y.
Et en fait, vous vous enregistrez en live ou vous faites instrument par instrument?
Non, on fait une prise live en fait du basse batterie avec une guitare témoin et histoire de garder une certaine dynamique, une énergie propre au fait de jouer ensemble. Et du coup, après, on retravaille les parties qui sont à retravailler, on y greffe les arrangements. Dans la préparation d'un EP, enfin tout du moins comme on a préparé celui-ci. Déjà tu te mets dans un contexte de répétition qui est différent de celui habituel, puisque tu mets de côté un petit peu plus la composition et tu cherches des clics pour tes morceaux, tu penses à des arrangements, exactement, tu vérifies que tout soit cohérent rythmiquement et mélodiquement. Donc c'est vrai que c'est un travail un petit peu fastidieux, mais
toujours dans le souci, voilà, parce qu'en fait on est toujours dans le souci d'efficacité, parce que justement des jours de studio c'est onéreux, et du coup meilleur t'es, plus t'es préparé et moins de temps tu vas prendre en fait pour faire tes prises et avoir un produit abouti qui te plaît, quoi.
Il y a beaucoup de musiciens qui me disent que actuellement on n'a plus le temps de créer en studio un morceau, quoi. Enfin,
c'est sûr.
Il faut que ça soit calé.
Exactement, faut que tu arrives, que tu aies tous tes arrangements et que limite tu te projettes un petit peu à l'avance pour savoir si tu vas avoir le temps de tout faire aussi, quoi. Mais moi je sais que le studio, pour le coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, justement ce moment où c'est pas non plus la course, quoi. Je veux dire, t'es là, enfin nous pour notre enregistrement, on a eu le temps d'essayer des choses, justement, on a fait ça avec un pote, c'était un contexte un peu plus confortable que quand t'arrives, que tu connais pas les gens et que effectivement t'es calé sur le timing. Et du coup, moi je sais que c'est quelque chose que j'apprécie bien, le fait de pouvoir tricoter un petit peu sur place, même si le but c'est quand même d'arriver avec l'ensemble de tes arrangements.
Il y a ça, et puis moi ce que j'aime bien aussi en studio, c'est un peu le travail en équipe, quoi. On est un peu tous mis sur la sellette, justement pour bien passer nos prises, etc., etc. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté où on a une solidarité qu'il y a pas forcément quand on compose ou même en concert, mais là du coup on serre un peu plus les coudes, je trouve que ça crée une intimité qu'il n'y a pas forcément dans d'autres contextes, qui est vraiment vraiment sympathique. Enfin, moi c'est toujours avec plaisir que j'aborde ce genre d'expérience studio.
Et pour enregistrer un 4 titres comme un Blurring Effect, ça vous a pris combien de temps, en fait? Ça prend combien de temps?
C'est difficilement quantifiable, hein, parce que c'est vrai que ça s'est étalé.
Les prises basse batterie, ça a pris 2 jours en gros, je pourrais dire.
C'est ça, à peu près, ouais.
Et ensuite, au niveau des grattes et du chant, je sais pas.
Ça s'est étalé, il y a eu plusieurs prises, des fois on y allait le soir, c'était justement l'avantage de bosser avec un ami. Et voilà, c'est là où c'est un petit peu plus difficile à te dire, en tout cas pour la seconde partie, mis à part le basse batterie, à dire les guitares, ça s'est fait en temps de temps, et le chant, et les arrangements.
C'est un peu plus haché, ouais, et puis en plus, on est un peu tributaire aussi de la fraîcheur de la voix. Facile sur la voix, c'est quand même un instrument assez particulier. Et c'est vrai qu'une fois que la voix est fatiguée, faut aussi arriver à pouvoir passer à autre chose pour...
C'est ça, c'est un petit peu la cause des justement des espacements de prise ou autre, c'est que quand ta voix elle est fatiguée, t'attends quelques jours avant de refaire des prises.
Il y a des chanteurs qui me disent que c'est comme un muscle, comme un instrument, que ça s'entretient, ouais, quoi, en fait.
C'est organique, donc contrairement à un instrument, tu le maîtrises pas de la même manière.
Et M. Kella sur Radio Canu, dans Musique, etc., avec le morceau Gold Fish, extrait toujours de leur EP Blurring Effect. Dire un mot, les M. Kella, sur ce morceau Gold Fish qui clôt le EP.
Bah, c'est un morceau qui clôt le EP, mais ouais. Alors il a une particularité, ce morceau, c'est que généralement il clôture aussi nos concerts.
Et toujours, vous jouez toujours sur scène, celui-là.
Oui, ouais. On le joue toujours, et c'est vrai qu'en plus on a la fâcheuse habitude de le mettre en dernier, parce que c'est vrai qu'on a un final un petit peu épique, on va dire.
Ouais, un petit peu plus explosif.
Plus énergique, plus explosif, et c'est vrai que finir sur ce genre de note en concert, ça fait toujours son petit effet, quoi. Donc c'est vrai qu'on... C'est un peu la particularité de ce morceau.
C'est le morceau un peu plus dark, je trouve, aussi, de l'album, finalement. Un petit peu, la couleur est un peu différente des trois autres morceaux. Et voilà.
Et l'expérience Yem Kella sur scène, comment vous le vivez tous les trois? C'est un plaisir, c'est un passage obligé, le track.
Le track, je pense que tu l'as toujours. Si tu l'as pas, c'est pas bon signe. Après, on fait pas énormément de concerts non plus dans l'année, donc c'est un petit peu comme l'évolution du groupe, c'est que la scène est aussi, la manière d'aborder la scène est également en évolution, c'est-à-dire que plus ça va, plus t'es confiant et voilà. Et puis c'est variable, tu peux très bien faire un bon concert comme en faire un mauvais en rapport à divers facteurs, quoi.
Et puis une question que j'aime bien poser, c'est il y a beaucoup d'artistes qui me parlent de ça, qui en fait me disent que sur scène, en fait, une fois qu'on est on est dans le set, quoi, il y a une sorte de décharge d'adrénaline et qu'on est un peu, qu'on plane un peu, qu'on est un peu dans un état second.
Ouais,
ça vous le fait, ça, d'être une sorte de transe, d'être en jouant sa musique.
Et ben justement, quand tu fais un bon concert, c'est que t'es dedans, t'es vraiment dans ta musique, et c'est vrai que tu te mets un petit peu un voile en rapport du lieu où tu te trouves, des gens qui peuvent se trouver face à toi, et c'est vrai que c'est relativement plaisant, en fait.
Ouais, c'est clair. Ça arrive pas forcément à tous les concerts, quoi, parce que ça dépend, ouais, des ingrédients qu'il peut y avoir, mais c'est pas une science exacte. C'est ça aussi qui est intéressant dans les concerts, c'est que finalement, même si tu joues deux fois dans la même salle, tu vas pas forcément retrouver les mêmes sensations, la même alchimie, et pour autant, c'est ça aussi qui fait un peu la magie du truc, parce que bah, tu sais pas trop à quoi t'attendre, quoi.
Ouais, c'est très curieux comme sentiment, parce que il y a l'excitation du début, il y a le track, on est très content de monter sur scène, etc. Puis en fait, quand on est sur scène, ça passe très très vite aussi. Donc parfois ça passe tellement vite qu'on en profite pas comme on aurait aimé le faire. Donc c'est un peu ambivalent comme après comme sentiment.
C'est aussi la répétition de l'exercice qui fait que, je veux dire, avec le temps, t'es plus à l'aise et tu te retrouves plus fréquemment dans ce feeling là, en fait, sur scène.
Par rapport à la scène lyonnaise, vous trouvez, qu'est-ce que vous en pensez en tant que groupe émergent, alternatif? C'est une chance pour un groupe d'évoluer sur Lyon? Vous trouvez des endroits où jouer facilement, ou c'est...
Il y a des endroits, comme je disais au début de l'interview, en fait, avec Ben, nous on a fait de la ZIC pendant 8-9 ans ensemble, et c'est vrai que depuis, en rapport au début, je trouve qu'il y a quand même, ça a quand même relativement changé. Il y a pas mal de lieux qui ont fermé. Voilà, il y a toujours des endroits pour jouer. Je trouve que les personnes qui tiennent ces endroits ont pas forcément la même le même rapport au groupe que ce qui était il y a 10 ans de ça. Je trouve que c'est un petit peu sélectif quelquefois pour des lieux qui sont loin de d'être extraordinaires, quoi.
Bah après, peut-être que l'offre et la demande. Il y a peut-être beaucoup de groupes
aussi,
sur Lyon,
hein.
Et peut-être
après,
plus de choix. Mais...
Il y a des choses qui sont vraiment bien. Enfin, moi, je pense notamment à une structure qui s'appelle Warm Audio à Dessine, qui fait donc salle de concert, locaux de répétition et pour le coup, studio d'enregistrement. Et c'est des gars qui se donnent vraiment à fond depuis des années. Et c'est vraiment un lieu magique et super intéressant, quoi.
C'est là que vous répétez?
Non, on répète pas ici. Alors moi, je répète en fait avec mon autre groupe, justement Warm Audio, puisque je joue dans un autre groupe où je joue de la guitare, et nous, en fait, on a la chance de pouvoir répéter en fait en maison
dans le sous-sol de mes parents, en fait, pour pas embêter les voisins,
et qu'on remercie mille fois d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est super confortable en rapport d'un local de répétition, quoi. Déjà, ça te permet de pas avoir de loyer à payer tous les mois, Et du coup, c'est un petit plus pour justement financer les enregistrements, les choses comme ça.
D'accord, la Yemkela, il reste 6 minutes. On va, je pense, se quitter en musique avec un dernier morceau qui s'appelle Asylum. Mm-hmm. Et peut-être pour ceux qui veulent, qui aiment votre musique, on vous retrouve vous. Je crois qu'il y a deux Facebook. Alors, faut pas.
Ouais,
il faut expliquer. Il y a une page et puis une.
Bah en fait, sur le Facebook, effectivement, on a d'un côté un compte où on y va pour gérer la page. Qu'on a également, donc on a un compte qui s'appelle en fait Yemkela Altrock, comme Alternative Rock. Donc voilà, vous pouvez nous demander en ami, et puis on vous répondra sans problème. Si vous voulez d'ailleurs commander un EP éventuellement, ce serait avec plaisir que vous nous envoyiez un petit message pour nous en demander, il n'y a aucun souci. Et on a également en fait une page Facebook. Donc au nom du groupe sur laquelle aussi et on fait incroyable. De la communication. Alors c'est un peu un doublon, mais on n'est pas des pros du Facebook et de la communication.
C'est vrai qu'on s'attarde pas vraiment sur le c'est un petit peu le défaut, c'est que la communication c'est pas encore bien développé, c'est
bien
pas notre forme.
Ouais.
Je crois qu'il y a un SoundCloud aussi.
Il y a un SoundCloud exactement avec les titres, enfin le EP plus donc Asylum, le morceau qu'on va écouter, qu'on a enregistré à la Hacienda il y a deux ans. Deux ans de ça.
D'accord, donc quel dernier, on peut dire un inédit de Yemkela.
Ouais, on a eu la chance de pouvoir enregistrer, passer deux journées dans ce studio qui est vraiment un super studio. C'était encore une expérience supplémentaire et puis dans des lieux qui sont hyper agréables avec des gens en plus.
C'était assez sympa en fait. C'était dans le contexte d'un workshop pour une école qui s'appelle Sound Factory, une école d'audiovisuel. Et en fait, donc le but de ce workshop, c'était de former un petit groupe d'élèves à l'enregistrement d'un groupe en studio. Donc c'est vrai que le cadre était magnifique. Et on s'est un peu laissé driver par les étudiants de cette école. Et on a enregistré ce morceau-là. Alors du coup, c'était marrant parce que c'était un peu moins confort que l'expérience sur l'EP. Parce qu'on s'est un peu retrouvé prisonnier par le temps. Parce qu'effectivement... Au niveau de l'efficacité, quand on apprend, quand on essaye de faire, enfin que le professeur faisait passer ses messages à ses élèves, du coup, nous on était un peu en attente, mais enfin, je me souviens les prises chants pour le coup, elles ont été faites en une demi-heure, c'est quasiment one shot. Ouais. Mais en tout cas, le produit final est quand même assez.
Et pour le coup, donc, le morceau d'ailleurs qui a été mixé par un pote à nous aussi, qui s'appelle Fabrice Bois, et qu'on remercie parce que le résultat est bien cool.
On écoute dans un instant. Je tenais à dire, avant qu'on se quitte, qu'on pourra écouter cette émission à partir de 14-15 heures sur les blogs de Radio Canu, à la rubrique musique, etc. Peut-être que vous mettrez un lien sur votre Facebook, histoire de faire tourner un peu l'émission. On se quitte sur Asylum, dont vous venez de parler. Donc, Yemkela, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Et je vous dis à bientôt pour le prochain EP, peut-être en début de semaine.
Début de l'année prochaine, on l'espère.
Merci.
Yemkela.
Merci pour l'invitation.
Voilà, donc c'était musique, etc. Comme tous les dimanches, de 11 à 12, avec Yemkela. Et on se quitte avec le morceau Asylum. chers auditeurs, vous avez pu écouter musique, etc. avec le groupe Yem Kela. Je vous donne rendez-vous quant à moi dimanche prochain de 11h à midi. Je recevrai le chanteur français Yves Le Guillard. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission ainsi que les précédentes sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et quant à moi, je vous laisse pour le moment avec les bandes continues. Patientez un petit peu. À 13h, il y a une émission qui s'appelle Le Petit Bazar. Voilà, à la semaine prochaine, 11h midi. C'était musique, etc.